Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouvel éclairage qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est le portage salarial, et ceci avec des éléments de réponse qui vont nous être apportés par Jean-Pierre Ayer, qui est l'un des pionniers de cette technique, de ce processus. Jean-Pierre Ayer, bonjour.
Bonjour, monsieur Chambon.
Heureux de vous recevoir sur l'antenne. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes un des pionniers de cette technique. Vous êtes ingénieur électronicien de formation. Vous avez exercé des responsabilités de haut niveau dans différents secteurs d'activité et tout particulièrement dans celui de la formation. Vous avez d'ailleurs été pressenti pour être le directeur général d'un grand groupe de formation nationale. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, qu'est-ce que le portage salarial? Quels sont ses enjeux? À qui il s'adresse? Je voudrais replacer le sujet sur un contexte plus large, qui est celui, bien entendu, de cette fatalité qui frappe les économies occidentales, et tout particulièrement la France, celle du sous-emploi et celle du chômage. La France est doublement touchée par cette maladie, je dirais même par ce cancer, parce que non seulement son chômage est à un niveau élevé, plus élevé qu'en moyenne européenne, mais en plus aux deux extrêmes, c'est-à-dire du côté des jeunes et du côté des seniors, elle est en position extrêmement défavorable. Si on ajoute l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont soit en situation de chômage, soit en situation de précarité d'emploi, c'est-à-dire qui partagent leur activité, on arrive à ce chiffre qui fait froid dans le dos de 4 millions de personnes, 1,8 million étant des chômeurs au sens de l'OIT, c'est-à-dire de la classe A. Je dirais que le bon côté, s'il y en a un, s'il faut toujours chercher à positiver de cette situation, c'est que bien évidemment, ceci laisse la place à beaucoup d'imagination. Dans les moyens qui sont utilisés par les pouvoirs publics pour sortir de cette ornière, c'est ainsi qu'on a vu le développement des CDD, qu'on a vu le développement de l'intérim, mais le secteur privé a lui aussi fait preuve d'imagination, et vous en êtes, cher Jean-Pierre Ayer, l'illustration. Alors, dans les innovations très récentes du côté des pouvoirs publics, il y a les auto-entrepreneurs qui sont une réussite, qui s'adressent probablement plus à une population de chefs d'entreprise, on va dire. En tout cas, ce sont des vertus de chefs d'entreprise, mais qu'ils ne le savaient pas encore. Et puis, donc, des techniques beaucoup plus, peut-être plus anciennes, mais en tout cas beaucoup plus innovantes, c'est le portage salarial. Alors, donc, première question, Jean-Pierre, qu'est-ce que le portage salarial et dans quel contexte celui-ci s'inscrit-il?
Écoutez, le portage salarial est né d'un constat tout simple. Hein. Il existe depuis une vingtaine d'années, déjà. Le portage salarial est né du besoin de cadres, et plus particulièrement de cadres supérieurs, qui se voyaient, appelons un chat, débarquer sur le tard et qui se retrouvaient chômeurs. Et quand on est chômeur passé 50 ans, on éprouve de sérieuses difficultés à re-signer un contrat de travail classique avec différentes entreprises. Ces personnes étaient très souvent accompagnées par des mesures d'outplacement avec leur licenciement. Et une des premières leçons...
Outplacement, oui, c'est donc une aide pour être placé dans une autre entreprise.
Une aide au retour à l'emploi, voilà, accompagnée par un consultant conseiller qui va vous aider à bâtir votre CV, à vous redéployer, à mener un certain nombre de démarches. Et dans ce contexte, bien sûr, nos chômeurs se voyaient inculquer et marteler qu'ils n'étaient certainement pas des demandeurs d'emploi, mais des offreurs de services. Et dans leur discours, vis-à-vis d'employeurs potentiels, ils se voyaient en retour dire « Bah écoutez, puisque vous êtes un offreur de services, allez donc au bout de votre démarche, facturez-moi une prestation de service, parce que moi ça va me faciliter la chose, je vous le dis tout net, je ne peux pas vous embaucher, j'ai des directives très strictes de ma hiérarchie, pas d'embauche, de ma maison mère et autres, mais j'ai une marge d'autonomie, et votre profil m'intéresse, vous avez une expertise et vous pourriez m'être utile, et je pourrais très bien vous confier une mission, mais facturez-moi des honoraires, et dans ce cas-là, on pourra avancer assez rapidement. »
Alors donc, le principe consiste à, pour le demandeur d'emploi qui a des compétences et une expertise, à transformer en quelque sorte des honoraires en salaires,
oui,
donc alors, de choisir entre l'impôt et les charges sociales.
C'est un peu moins net que vous le présentez. Tout simplement, cette personne qui a eu une grande partie de sa carrière en tant que salarié, si jamais, et à l'époque, il basculait vers un autre statut qui était le statut d'indépendant, alors soit en tant que travailleur non salarié ou voire en créant une société, il perdait le bénéfice du statut de salarié et son indemnisation à SEDIC. Donc même si cette indemnisation ne correspondait pas à son niveau de rémunération, c'est quand même un filet de sécurité, c'est un parachute et que la personne n'était pas prête à lâcher autour d'une mission. Et donc l'idée est naturellement venue dans le cadre d'associations des grandes écoles d'ailleurs de créer une SARL et d'embaucher ces personnes pour dire de pouvoir facturer leurs honoraires. Et ça a été le point de départ de quelque chose qui, il y a maintenant 2 ans, s'est inscrit dans la loi de modernisation sociale de 2008, et plus récemment, dont l'organisation vient d'être finalisée, puisque le gouvernement avait confié au Prisme, le syndicat du travail temporaire, le soin d'organiser avec les partenaires sociaux l'organisation du portage salarial. Chose qui vient d'être faite, donc on rentre véritablement dans la dernière ligne droite, dans le nettoyage du paysage réglementaire et juridique, et d'ailleurs on le ressent nettement avec un regain des candidats vers cette forme d'activité.
Vous nous parlez maintenant donc de la profession. Cette profession, donc, on va dire que le portage salarial a combien d'années en gros ? Une vingtaine d'années ?
On dirait sérieusement une dizaine d'années.
Une dizaine d'années, une dizaine d'années.
C'était très confidentiel au départ.
D'accord.
En fait.
Donc un certain nombre d'acteurs. Au départ, vous en êtes le pionnier. Aujourd'hui, il y a combien de structures qui se retrouvent dans votre syndicat ? De façon approximative.
La profession s'est organisée. Vous avez 4 représentations syndicales, dont la principale qui est le SNEPS, le Syndicat National des Entreprises de Portage Salarial, où on a véritablement œuvré pour dire d'apporter un portage salarial éthique et une organisation qui véritablement s'inscrit là où est le véritable besoin. D'ailleurs, ça a été entériné par l'organisation maintenant du portage salarial qui s'adresse à des cadres disposant d'une expertise, d'une certaine autonomie et véritablement pour délivrer des prestations intellectuelles. Il ne s'agit pas d'aller chasser sur d'autres terrains comme on l'a vu avec des structures dites de portage salarial qui voulaient porter des maçons. Enfin bon, on n'est pas dans l'artisanat, on n'est pas...
La cible, c'est donc, on va dire, des gens dont les compétences ont été affirmées, qui détiennent une expertise validée probablement par l'expérience de longues années du côté du salariat, et qui donc peuvent vendre cette expertise sous forme d'honoraires. Et la structure donc de portage salarial, elle transforme et permet donc par son intermédiation aux salariés du coup de maintenir ses droits et de continuer à conserver un statut de salarié. Et donc de lever le principal obstacle qui est souvent du côté des recruteurs parce qu'ils ont, comme vous le disiez tout à l'heure, des contraintes par leur direction.
L'entreprise va pouvoir avoir accès facilement un gisement potentiel de talent. Parce que nos seniors, je veux dire, sont véritablement des gens talentueux, mais ils restent encore inscrits dans une démarche de recherche d'emploi et qui n'est pas compatible, ou du moins qui est, sans dire à l'opposé, mais qui véritablement n'est pas celle que de promouvoir ces talents, que de rentrer, comme vous le disiez, dans une démarche d'auto-entrepreneur, dans ce contexte de la prestation intellectuelle. L'entreprise recherche la flexibilité, l'entreprise est organisée par projet. Quand elle a un projet de nature stratégique, elle va confier la direction de ce projet, bien sûr, à quelqu'un du sérail. Mais cette personne, ce directeur de projet, a besoin de constituer son équipe. Il va la trouver, bien sûr, en interne, au besoin dans des filiales, mais s'il a besoin d'expertise pointue, il ne les a peut-être pas en interne. Donc il va avoir affaire à des prestataires extérieurs, à des ressources externes. Et pour ce directeur de projet, je maintiens, il n'a pas vocation à gérer socialement ses ressources. Donc quand on lui apporte quelqu'un de talent, qui est immédiatement disponible, qui est très rapidement opérationnel, il est dans un paysage complètement sécurisé.
Oui, c'est une logique gagnant-gagnant.
Tout à fait. Lui, il a une facturation d'honoraires, il inscrit ça dans son budget, c'est facile, et il va déléguer
toute la
gestion sociale vers la structure de portage. D'où la nécessité d'avoir, bien sûr, professionnalisé la chose, d'avoir des structures qui tiennent la route et qui dépassent, et de loin, la simple facturation d'honoraires et la transformation de ces honoraires en salaire.
Bien sûr. Alors,
puisqu'on va apporter, bien sûr, tout le support utile aux personnes qui viennent nous rejoindre.
Alors nous allons y revenir. Avant, au passage, il faudrait peut-être que vous nous disiez un mot de la structure que vous avez créée, Height Potential Resources. HPR, donc, qui... Alors, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, donc, cette société...
Emploie... Ah, tout simplement, puisque vous me rappeliez mon parcours. Bon, j'ai eu un parcours de commercial dans des multinationales. Très rapidement, j'ai intégré Olivetti, ensuite Colgate-Palmolive, où j'ai, appris les techniques de vente américaines. Ensuite, j'ai intégré Pioneer, donc avec une relation avec les Japonais, et organiser la distribution de l'électronique grand public dans les années 80. Je me suis trouvé à 35 ans d'intégrer la CEGOS, appelons un chat, cet organisme de formation, où véritablement j'ai trouvé le terrain de jeu de l'autonomie, puisqu'on vous confie le rôle de trouver vos clients, de développer vos prestations, de les fidéliser, et puis bien sûr de devenir très rapidement manager pour en devenir directeur adjoint.
C'est là où j'ai déjà un esprit d'indépendant.
Oui, tout à fait. Et ça, je l'ai acquis dans cette dizaine d'années au sein de la CEGOS, où on était terriblement intrapreneur déjà. Donc je me suis trouvé confronté à être l'interlocuteur d'une bonne cinquantaine de multinationales, avec des événements qui vous marquent la vie. J'ai accompagné IBM dans l'introduction de l'IBM PC. J'ai facilité la vente du kilowattheure lors de la mise en route de la deuxième tranche de la centrale de Flamanville. J'ai accompagné Pompe Funèbre Générale dans la vente de ses prestations vis-à-vis des familles. Enfin, vous voyez un peu la vaste palette. Comme vous le disiez, je n'ai pas saisi l'opportunité, enfin ou du moins, oui, je n'ai pas saisi la direction générale de la CEGOS. À 45 ans, quoi faire? J'avais la possibilité d'être dans un placard doré, c'est pas du tout mon état d'esprit. Donc j'ai organisé ma sortie, très fanfaron d'ailleurs. Mais n'écoutant pas mon président, le paysage n'est vraiment pas ailleurs ce que vous pensez. Enfin bon, pour faire simple, 8 mois plus tard, j'étais en train de galérer en tant que chômeur. Des clients m'ont rappelé, il a fallu que je facture et c'est comme ça que j'ai découvert le portage salarial pour l'utiliser à mon profit.
Donc on voit bien son côté utilitaire puisqu'en fait c'est parce que vous avez été confronté à cette problématique que vous-même vous avez eu cette idée. Alors c'est une idée qui a maintenant fait son chemin, qui a grandi, alors au point d'avoir, une, si j'ai bien compris, une charte de déontologie.
Oui, tout à fait. Au sein du syndicat, très tôt, nous avons bâti une charte de déontologie qui maintenant fait autorité puisqu'elle a été entérinée par aussi bien le syndicat patronal que les partenaires, sociaux.
Ce qui est une sécurité supplémentaire pour ceux qui ont
recours. Ce que la loi, d'ailleurs, a entériné. Il s'agit de sécuriser les différents acteurs en pensant principalement aux portés. Sécuriser le parcours du porté. Faire en sorte que son statut de salarié soit maintenu dans son intégralité, avec l'intégralité de sa protection sociale. Qu'il puisse avoir un retour sans ambiguïté aux assédiques, enfin de parcours, enfin bon, ce sont des épisodes qui rythment son activité. Et puis, à pouvoir aménager le sacro-saint contrat de travail qui ne reconnaissait que le lien de subordination et autres, alors qu'on rentre plutôt dans une para-subordination à l'italienne. Enfin bon, le porté a une autonomie. Il n'est pas indépendant. Il doit respecter, bien sûr, le règlement intérieur et nos procédures. Mais il a une autonomie dans son expertise, il a une autonomie dans ses talents, dans ses compétences.
D'accord. Donc une profession qui est sécurisée, qui est encadrée par une charte de déontologie. Alors, vous nous dites High Potential Resources, HPR, constitue une plateforme de talents qui fonctionne avec une organisation qui a demandé plus d'une décennie d'ajustements permanents pour aboutir à un modèle économique cohérent et pertinent. Alors, c'est quoi ce modèle économique? C'est-à-dire, en plus, simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire de l'intermédiaire entre les honoraires d'un côté et le butin de salaire de l'autre. Alors, c'est quoi, en synthèse, votre job supplémentaire?
Alors, très simplement, c'est vrai que ça a demandé une bonne dizaine d'années parce qu'on expérimentait. Je veux dire, je me souviens encore, avec mes deux associés de l'époque, d'aller voir un conseil qui nous dit « Attendez, vous faites ce que vous appelez du portage salarial, mais dites-moi, vous connaissez ce que c'est que le délit de marchandage? Vous savez ce que c'est que le prêt de main-d'œuvre à but lucratif? Mais c'est totalement interdit !» Bon, et on est resté pantois, mais avec la bonne réaction, qui était de dire « Bon, on l'a fait, on le savait pas, en toute honnêteté et tout, ben justement, si c'est interdit, allons-y, professionnalisons et inscrivons ça, parce que ça répond à un véritable besoin !» Hein, ça décoince des situations. Je veux dire, quelqu'un de plus de 50 ans qui s'étiole en tant que chômeur, c'est inadmissible. Quelqu'un qui va courir à la fin de ses indemnités assédiques, voire qui va aller s'expatrier en province en revendant, je veux dire, son appartement parisien parce qu'il n'arrive plus à joindre le debout, c'est intolérable. Et entre nous, je veux dire, ne pas exploiter les talents de nos seigneurs, c'est proprement révoltant.
Tout à fait, absolument.
Donc,
c'est du gâchis.
Pour rebondir sur votre question, HPR, plus particulièrement au sein de cette vingtaine d'entreprises du syndicat, où nous avons notre charte d'odéontologie, où nous avons notre éthique professionnelle. Bien sûr, il s'agit d'apporter autre chose que d'être une simple plateforme administrative de gestion. Nos consultants, s'ils sont autonomes dans leur prospection commerciale, bon nombre, notamment les profils techniques, ne savent pas ou savent mal se vendre. Donc, il faut leur apprendre à bien se vendre, il faut leur apprendre à avoir une véritable démarche vis-à-vis de leurs clients, de s'inscrire dans une démarche d'assurance qualité, de manière à délivrer des prestations de qualité et par là même sécuriser leur parcours, développer, fidéliser leurs clients. Enfin, je veux dire, ça n'est pas éloigné du métier que j'avais en tant que manager d'une cinquantaine de consultants au sein de la CEOS. J'avais un job de facilitateur, mes consultants étaient plus des artistes et j'étais plus un agent d'artiste pour les aider, leur faciliter leur travail. Donc j'ai transposé tout simplement ça au sein d'HPR.
Donc au centre de toute cette activité, c'est l'homme en fait. Hein. Donc
ça, ah, c'est les ressources
oui, humaines, c'est le management.
J'en fais ma source de satisfaction personnelle.
Bon, ce qui est une très bonne chose. Alors vous avez une idée, mais c'est peut-être une question à laquelle est difficile de répondre, du nombre de portées. Alors évidemment, j'imagine que ça tourne, donc il doit y avoir beaucoup de flux. Mais on estime que c'est plusieurs milliers, j'imagine, de gens.
Oui, je dirais quand même plusieurs dizaines de milliers. L'estimation, avec une fourchette large, se situe entre 20 et 30 000 personnes.
Ah oui, d'accord. Donc, c'était extrêmement significatif. Hein, au moment où on doit se battre sur... Alors, tout est bon, en quelque
c'est
sorte.
C'est à la fois significatif et somme toute encore modeste.
Oui, bien sûr.
Quand je vous entendais dire nos 4 millions de...
Oui, c'est évident. Mais alors, justement, le portage salarial... tel que vous nous le décrivez, et vous le décrivez d'une façon très pertinente et très agréable, et qui va certainement donner envie à nos auditeurs qui pourraient se retrouver dans ce genre de circonstances à venir vous consulter, ou une entreprise de votre syndicat qui est couverte par une charte de déontologie. Donc c'est très bien, c'est donc un élément supplémentaire, mais est-ce que le portage salarial ne risque pas d'être cannibalisé par les autres techniques qui ici et là apparaissent? Alors le CDD, l'intérim, est-ce que l'intérim... qui est généralement un indicateur avancé du retournement du marché du travail. Est-ce que c'est un ennemi du portage salarial?
Je n'ai aucun ennemi.
Bon.
À chaque fois qu'on a une activité ou un procédé, un processus qui est à même de favoriser le retour à l'emploi, j'estime qu'on agit dans le même sens, dans le même combat et on joue dans la même cour.
Donc il y a de la place pour tout le monde.
Bon, bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde, mais par contre il y a un positionnement. L'intérim a toujours voulu faire de l'intérim cadre et peine à développer cette activité d'intérim cadre. Okay ? L'intérimaire est sous lien de subordination du client chez lequel il est mis à disposition. Chez nous, pas question d'avoir un lien de subordination avec le client. Il y a déjà une première différenciation. Imaginez un auditeur qui serait sous lien de subordination du client chez lequel il intervient. Pas question. D'ailleurs, ça a été un de nos fers de lance pour... faire comprendre notre activité et son positionnement. Nous situons entre le salarié, je dirais, de droit commun, sous lien de subordination, l'intérimaire qui déjà est dans une situation un peu de précarité, mais certaines personnes adorent être intérimaires parce que
ça les fait changer,
c'est un perpétuel renouvellement, c'est dynamique, c'est vif et autres, mais ça s'adresse plutôt à des populations
plus jeunes,
soit de personnes postées, ou soit de cadre intermédiaire. Mais on ne rentre pas dans le niveau du cadre sup. Le management de transition, autre forme d'activité, est plus significatif. Dans les deux cas, intérim et management de transition, ont des commerciaux qui vont chercher les missions. Donc on apporte la mission à l'intéressé. Le portage salarial va s'intercaler entre ces deux activités et l'activité de travailleur non salarié ou la personne qui crée une société unipersonnelle et qui va se retrouver tout seul.
La seule différence,
c'est que chez nous, il ne va pas être seul. Il va être porté, comme on dit. Il va être accompagné. Il va bénéficier d'un certain nombre de supports. Il va bénéficier de formations. Il va pouvoir échanger avec d'autres. Il y a une notion de club, enfin d'échange. Et surtout, il est autonome. Il n'est pas sous lien de subordination du client chez lequel il intervient. Il est placé, entre autres chez moi, dans un management par la qualité. Hein, qui est mon outil de management des troubles, d'ailleurs. Hein. Satisfaction du client, respect des délais et délivrance de prestations
qualité.
De qualité. Et puis on y est, et puis ça y est, on a tout dit. Hein. Donc voilà où se situe la différenciation. Et bien sûr, pour le chômeur, qui par exemple a comme perspective de retrouver un emploi classique, ça va lui servir de tremplin. Moi, je me souviens juste une anecdote très vécue. Quand j'ai créé, avec mes deux associés, cette activité de portage salarial, on démarrait tout juste, donc j'avais besoin de trouver une rémunération. J'ai fait de la haute placement dans un cabinet. Donc j'ai accompagné une quinzaine de cadres sup et dirigeants dans leur redéploiement. Je me souviens d'une remarque d'une candidate, d'ailleurs, qui revient vers moi tout sourire parce qu'elle était embauchée dans un poste important de marketing et qui me dit de go, Jean-Pierre, le fait que j'ai fait des missions a certainement été déterminant dans le choix. Pourquoi ? Parce que j'ai démontré mes capacités d'adaptation et en fait, j'ai mené des missions dans d'autres domaines que j'avais fait. Et par là même, j'ai coiffé les deux autres candidats. Vous voyez, donc ça s'inscrit. Et puis c'est du meilleur effet dans un CV que d'inscrire qu'on a réalisé des missions. Ça démontre le dynamisme, ça démontre qu'on est un battant,
donc,
enfin bon.
Voilà, donc la succession de postes, c'est pas un handicap, au contraire, on peut
ça
s'en servir
de tremplin.
Comme un tremplin et comme un élément de différenciation. Alors, ces entreprises de portage salarial, ce sont des entreprises qu'on pourrait considérer comme du troisième type. En tout cas, c'est ce que vous nous dites à un moment donné concernant HPR. Alors, concernant HPR, vous parlez
tout,
à un moment donné...
Tout le monde est acteur du développement.
Voilà.
Et c'est une nouvelle mentalité.
Tout à fait. Donc, vous parlez de biographie flash. C'est quoi ?
Oui, bien sûr. Loin de moi l'idée de rester les deux pieds dans le même sabot et de simplement me limiter à apporter une prestation administrative de facturation, de gestion, même si on le fait très bien. Bah, c'est le constat de ces personnes qui ont à se redéployer à un moment donné et c'est le constat un peu navrant que je faisais à les voir galérer avec un CV. Alors des CV, je vous passe l'expression, mais du plus de 50 ans qui manifestement a envie de tout coucher sur le papier et qui vous sort 4 pages.
D'accord, donc il est absolument illisible par le recruteur.
Et je maintiens que vous avez dit le mot recruteur. Si le CV est un outil, est un support incontournable d'un processus de recrutement, c'est certainement pas le meilleur support, le meilleur média pour faire une campagne de redéploiement, et on n'arrête pas de le dire, il faut faire du réseau. Et faire du réseau avec un CV, bah vous m'excuserez, mais vous n'allez pas exciter les foules avec un CV. Donc, à contrario, ce que l'on a mis en place chez nous et qui nous a servi au départ pour émailler les talents des consultants et joindre à leurs propositions d'intervention, et ce qu'on a labellisé sous le nom de flash biographie, bah c'est reprendre le parcours de l'intéressé. C'est mettre en exergue sa formation initiale. On a affaire à des diplômés de l'enseignement supérieur. Et mon sens, le diplôme, l'école et l'année de promo, on a déjà quand même dit beaucoup, hein, sans citer les écoles les plus prestigieuses. Et ensuite, je vais structurer le parcours de l'intéressé autour de son expertise technique, s'il en a une, donc ses savoir-faire, ses compétences. Le deuxième volet, c'est son expérience. Alors, son expérience managériale, quels sont les projets qu'il a menés à bien au cours de sa carrière. Et quand quelqu'un m'annonce quatre projets différents, croyez-moi, ça y est, son profil, il est singulier. Oui. Personne ne peut écrire la même chose. Et le troisième volet est de mettre en exergue des traits de personnalité. Donc, avec expertise technique, expérience managériale, traits de personnalité, on va réécrire son parcours professionnel qui tient sur une page à quatre. Et va pouvoir être joint, je veux dire, à une candidature spontanée. Si la personne doit faire du réseau, on va le mettre sur un format marque-page avec une photo attractive et il va avoir main 300 d'exemplaires et autres. Pour terminer, parce que je pense que c'est quelque chose de très important, justement dans le redéploiement de notre candidat, de notre portée, de notre consultant, si jamais il a une expertise technique très forte, il va se mettre dans une démarche marketing push. C'est-à-dire qu'il faut qu'il cible des utilisateurs potentiels de son expertise et qu'ils partent à la conquête de ça. Et là, il y a des techniques spécifiques de conquête. A contrario, s'il a une expertise technique qui est devenue obsolète, il est devenu plus généraliste, ce qui est le cas de bon nombre de cadres sup qui deviennent managers et qui ont perdu leur sens opérationnel, leur sens de production du départ. Et il faut qu'ils se mettent dans une stratégie pool, c'est-à-dire faire connaître leur profil à la plus large audience possible. Et ça, c'est pas rentré dans les mœurs encore. On joue trop petit bras. Indiscutablement, quelqu'un a besoin de ce profil quelque part. Cette personne, ce directeur général, ce patron ne sait pas où elle est. Et à contrario, notre intéressé ne sait pas où l'entreprise se situe. Donc il faut communiquer. Et communiquer de manière intensive et large. Et bien sûr, avec toutes les possibilités de faire un mix push-pull. Voilà, bon.
Donc,
mais ça, c'est ma passion.
Push and pull, c'est l'homme de marketing qui parle. Donc
mais
ça
oui.
veut dire porter et tirer, puisque ici, nous sommes à l'antenne de Canal Academy, à l'Institut de France.
Merci.
Et donc, mais nous aurons.
C'est l'influence anglo-saxonne qui est encore présente.
Absolument. Et donc, je voulais vous remercier une nouvelle fois parce que grâce à vous, nous avons maintenant, et nos auditeurs avec nous, une meilleure vision du portage salarial, qui n'est pas simplement un trait d'union entre des honoraires et un bulletin de salaire. Il y a un enrichissement qui est apporté, de la valeur ajoutée humaine qui est apportée par les entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. HPR en est un brillant exemple, avec son président et créateur Jean-Pierre Ayer. Jean-Pierre Ayer qui nous a fait passer à la fois ses convictions et ses passions, une vision que l'on peut résumer par une de ses expressions favorites. Tout le monde est acteur de la réussite de l'entreprise. Le portage salarial y a bien entendu sa place. Jean-Pierre Ayer, merci encore une fois et vive le portage salarial.
Et vive l'emploi, vive le retour à l'emploi.
Voilà,
et vers le plein emploi, et plus particulièrement sur nos cadres seniors. Merci de m'avoir accordé votre antenne.
C'était un plaisir, merci.